On s'est laissé en décembre dans l'Évangile de Jean avec la mort de Jésus sur la croix, sa crucifixion, puis sa mise en terre, sa mise dans un tombeau. La mort de Jésus est essentielle au christianisme. La mort de Jésus est centrale au christianisme. Mais si l'histoire s'arrête avec la mort de Jésus-Christ, bien c'est une histoire triste. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour notre foi. C'est une catastrophe pour l'humanité. L'humanité est sans espoir si Jésus reste dans le tombeau. La résurrection est l'autre côté de la pièce. Vraiment, la mort, la résurrection de Jésus, ce sont deux faces d'une même pièce essentielle au christianisme, mais à l'espoir de l'humanité, parce que dans la résurrection de Jésus-Christ, on trouve l'espoir pour notre propre salut. Alors qu'on est en ce début d'année 2022, puis qu'il y a des choses qui sont lourdes, hein? L'année commence, puis des fois, on aurait le goût déjà d'être rendu à l'année suivante, mais on veut prendre chaque jour, comme on l'a chanté tantôt, « Voici le jour que Dieu a fait », et on veut revenir à l'Évangile. On veut revenir à ce message d'espoir que Christ nous a livré en ressuscitant d'entre les morts, et on veut aller redécouvrir dans la résurrection de Jésus la joie, la paix, la mission que Jésus a confiée à ses disciples. On veut revenir à ces notions-là essentielles ce matin. Et je pense aux jeunes gens. Je pense aux jeunes qui peut-être se disent « Quelle époque pour vivre ma jeunesse? Quelle époque pas évidente où l'espoir est incertain, l'avenir est incertain? » Si à quelque part tu es là et tu te dis « Oui, mais c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de ma vie dans tout ça? » Il y a tellement d'inquiétudes dans le monde, il y a tellement d'inquiétudes en Occident, il y a tellement de troubles en Occident. Mais dans la résurrection de Jésus-Christ, Dieu donne une mission à notre vie. Par la résurrection de Christ, Dieu donne une mission à notre vie. Notre vie trouve un sens profond. Et donc, je t'invite, si tu es jeune, à écouter ce message, à aller relire ce passage, justement pour aller trouver cet espoir-là et surtout ce sens que Dieu donne à ta vie, cette mission qu'il donne grâce à sa résurrection. Maintenant, pour tout le monde, peut-être que vous vivez de l'anxiété, je le sens personnellement autour de moi, je le vis aussi, c'est lourd, on est fatigué, il y a de l'anxiété qui est là. Bien, raison de plus pour revenir à un moment où les disciples, eux, vivaient de l'anxiété comme nous autres, on n'en a pas connu encore. Eux vivaient des moments terribles et puis il y a une résolution qui se passe dans la résurrection de Jésus. Il y a une libération qui se passe, ils sont libérés de cette dépression, de cette noirceur, de cette anxiété qu'ils vivaient parce que leur Sauveur, leur Seigneur a été crucifié et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On a besoin de retourner là parce que dans la résurrection de Jésus, on retrouve nous aussi cette libération-là, cette joie, cette paix, cette mission. Alors, penchons-nous sur ce passage-là ce matin, dans la prière, avec une attitude de dépendance envers Dieu, en disant, Seigneur, viens nous rencontrer. Viens nous redonner cette joie-là que les premiers disciples avaient, cette paix que tu leur as donnée lorsque tu es apparu devant eux, puis tu leur as dit, Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Et cette mission, ce sens à leur vie que tu leur as donné, viens nous redonner. Si on veut, on veut aborder le texte dans cet esprit-là. Vous êtes à la maison. Écoutez, le passage de ce matin a quelques éléments qui sont difficiles à comprendre. Vous allez avoir besoin de vos Bibles. Donc, c'est le moment, si vous voulez vous servir un autre café, un gros café bien foncé, ouvrez vos Bibles, vous installez. On va aller dans un mot de prière, puis on va plonger dans ce passage, puis on va aller voir vraiment la beauté qu'il y a dedans, puis certains éléments qui sont aussi assez intrigants dans le passage. On va aller dans un mot de prière ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence. Convaincus de ta résurrection, on vient dans ta présence pour t'adorer en ouvrant nos cœurs, Seigneur. T'adorer, c'est reconnaître que tu es Dieu. T'adorer, c'est te contempler. Et ce passage-là, Seigneur, de manière très unique, nous amène à contempler ta gloire, à voir ta majesté, Jésus. Je te prie, Seigneur, de venir nous donner, nous redonner cette joie de savoir que tu es ressuscité d'entre les morts, que le tombeau est vide, que la mort n'a pas su te retenir. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vont écouter ce message et qui peut-être demandent encore à être convaincus, ne sont pas convaincus de ta résurrection, viens les convaincre, Seigneur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas mes capacités à moi, Seigneur. C'est ton esprit et ta parole qui nous convainc de la résurrection de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, nous rencontrer ce matin. Viens nous parler. Ramène-nous, Seigneur, à cette joie des premiers disciples qui t'ont vu, qui t'ont touché, qui t'ont entendu, qui t'ont pris dans leurs bras, Seigneur. Convainc-nous de cette joie de ta résurrection. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.
De ce matin sont tirés dans Jean 20, versets 1 à 23, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 20, versets 1 à 23. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu Jésus, le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. Excusez. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, elle leur monta ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, « moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. »
Merci, Caroline. J'ai mes deux petites bouteilles, je me suis équipé eau froide, eau chaude. Vous allez voir que je tousse encore un petit peu. L'importance de la résurrection pour les chrétiens, on ne pourrait pas l'exagérer, on ne pourrait pas en mettre trop. C'est fondamental au christianisme. Ça a été fondamental. Remettez-vous là, dans la peau de ces gens-là. Jésus est mort sur la croix. Comme tout a avorté. Tout le projet, toute la beauté du projet, tout l'espoir qu'il plaçait en lui s'arrête là avec sa crucifixion. Donc, on ne pourra jamais exagérer l'importance de la résurrection. Pour les premiers chrétiens, dans leur foi à eux, c'est essentiel, c'est fondamental. Mais pour notre joie, nous, pour les chrétiens de tous les temps, en fait, je dirais pour l'humanité, parce qu'il n'y a pas d'autre espoir qu'en Jésus-Christ. Et puis Jésus avait dit lui-même, il avait dit qu'il était la résurrection. Dans Jean, au chapitre 11, verset 25, on lit, c'est Jésus qui parle et dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mais si Jésus dit qu'il est la résurrection, s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts, comment peut-on croire qu'il est la résurrection? Tout ça, ça serait un peu des vues de l'esprit, on espérait, OK, on ne l'a pas vu. Non, Jésus a dit qu'il était la résurrection, il est ressuscité d'entre les morts. J'aime bien comment Tim Keller illustre l'importance de la résurrection. Écoutez ceci. « Si Jésus est ressuscité des morts, alors vous devez accepter tout ce qu'il a dit. » Je répète ça. « Si Jésus est ressuscité des morts, alors vous devez accepter tout ce qu'il a dit. S'il n'est pas ressuscité des morts, alors pourquoi s'inquiéter de ce qu'il a dit? » La question de laquelle tout dépend n'est pas de savoir si vous aimez ou non son enseignement, mais s'il est ressuscité ou non. Parce que s'il est ressuscité, il a toute autorité, il mérite qu'on l'écoute, qu'on lui obéisse, qu'on le suive. Et donc la résurrection est centrale au christianisme, elle est centrale à l'espoir de l'humanité. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Croire dans la résurrection nous libère pour la joie, pour la paix et pour la mission. Croire dans la résurrection nous libère pour la paix, la joie et la mission. Premièrement, la résurrection. Gardez les versets 1 et 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, remarquez déjà que c'est une dame qui va découvrir le tombeau vide, on y reviendra. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. On a appris à connaître que c'était en fait l'apôtre Jean qui écrit la lettre, puis par humilité, il ne se présente pas lui-même. Et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » La première chose que je veux souligner dans le texte, c'est que les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection. Les disciples n'espéraient pas dans la résurrection. Les disciples ne croyaient pas, ne voyaient pas, n'envisageaient pas. Lorsque Marie s'est rendue au tombeau, elle trouve le tombeau vide. La première chose qu'elle se dit, c'est pas « Hey, il est ressuscité! » Non, dans sa tête, elle se dit « Ils l'ont volé. » Lorsqu'elle s'est rendue au tombeau le matin, c'était pas pour voir si effectivement il était ressuscité. Pourtant, Jésus l'avait annoncé, mais les disciples ne comprenaient pas ça. C'était au-delà de tout ce qu'ils pouvaient envisager. Donc, il n'y avait pas d'espace dans leur tête pour dire, dans leur foi, pour dire « il va ressusciter d'entre les morts ». Quand Marie s'en va là, c'est pour honorer celui qu'elle aimait, celui qu'elle avait appris à aimer, à suivre, son enseignant, son maître, son Seigneur. Et lorsqu'elle trouve le tombeau vide, elle ne déduit pas de ça qu'il est ressuscité d'entre les morts. Elle en déduit que quelqu'un est venu voler le corps. Quelqu'un est venu enlever le corps. Donc, la première chose à noter, c'est que les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection. C'est important de le savoir parce que ça donne une crédibilité supérieure encore à leur témoignage, de dire que ce n'était pas dans leur plan, ce n'était pas un truc qu'ils avaient orchestré, qu'ils avaient organisé. Ils ne s'étaient pas préparés à essayer d'aller combattre des soldats qui protégeaient le tombeau. Les premiers disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus ressuscite. Ce n'était même pas envisageable dans leur esprit. Mais on veut constater que le corps n'est plus là. Le corps est disparu. Elle courut vers Simon-Pierre au verset 2 et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Marie est désespérée et troublée dans son âme parce qu'ils ont enlevé son Seigneur et elle n'a aucune idée où est-ce qu'il a été placé. Elle est convaincue qu'on est venu chercher le corps. C'est très clair que le tombeau est vide. Simon-Pierre, verset 6 à 8, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, les bandes qui étaient autour du corps, et le linge qu'on avait mis sur son visage, non pas avec les bandes par terre, mais pliées dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Marie a vu le tombeau vide, Pierre a vu le tombeau vide, Jean a vu le tombeau vide. Il n'y a plus de corps dans le tombeau. Il n'y a plus de corps là. Le corps est disparu. À ce moment-ci, pour les disciples, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Est-ce que le corps de Jésus a été volé? Vous savez, les vols puis les profanations de sépulcres, de sépultures, c'était quelque chose de commun à l'époque. En fait, à toutes les époques. Encore aujourd'hui, quand j'étais en train d'étudier ça, j'ai fait une recherche 2 minutes sur Internet. Rapidement, j'ai trouvé les amendes qu'on colle aux gens qui vont diffamer, voler, briser des tombeaux. Donc, à toute époque, ça s'est passé. Et à l'époque, il y avait des vols qui se faisaient. Les gens entraient, partaient avec les corps parce qu'il y avait des parfums qui valaient très cher. Il y avait de la myrrhe qui était là. Il y avait souvent des objets personnels qui étaient là. Donc, c'est quelque chose de commun. C'est tellement commun qu'en fait, il y avait une peine pour ça. C'est la peine capitale. Si on te prenait à voler un tombeau, c'était la mort. Et donc, ça aurait pu être une possibilité. Est-ce que le corps a été volé? C'est ce que Marie a pensé sur le coup. On n'a pas la réponse rendue là. Mais le corps n'est pas là. Le corps est disparu. D'ailleurs, les opposants de Jésus, s'ils avaient eu le corps, auraient pu le produire, ils auraient pu juste le présenter. Ils disent non, il n'est pas ressuscité, parce que les disciples vont partir avec ça, puis ça va se répandre partout dans l'Empire romain, puis ils vont dire non, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais les opposants de Jésus auraient pu juste produire le corps, puis ils disent non, il n'est pas ressuscité, regardez, il est là, on a son corps. Le corps est disparu, le tombeau est vide, ça c'est très, très clair. Le corps n'y est plus, mais deuxièmement, la gloire de Dieu est là. Marie se dit, est-ce qu'ils ont volé le corps? Mais la scène à laquelle on assiste, ce n'est pas une scène de crime. J'oserais dire que c'est une scène de la gloire divine. Le tombeau est vide, mais Dieu est présent. Dieu est manifestement présent dans ce tombeau-là qui est vide. La gloire de Dieu est présente à ce moment-là. Tout a été rangé. Regardez au verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, entrant dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié et rangé à part. Des criminels qui rentrent dans un tombeau puis qui décident de partir avec le corps, commencent pas à tout ranger les affaires, vous comprenez? Commencent pas à placer ces choses-là. Au contraire, même, c'est du linge, ils seraient probablement partis avec. Parce que même ça, ça avait de la valeur. Mais lorsqu'ils arrivent dans ce tombeau-là, il y a vraiment quelque chose d'anormal qui se passe. Le corps n'est plus là. Les bandes qui enrobaient son corps sont par terre. Celui qui avait sur son visage est plié. Les choses sont ordonnées. C'est vide. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe là, qui n'est pas normal. Marie, pour sa part, ne trouve même pas vraiment le tombeau vide. Elle trouve le tombeau sans Jésus, mais il n'est pas vide pour elle. Il y a deux anges. Il y a deux anges qui sont là. Regardez les versets 11 et 12. « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour rentrer. » Souvent, c'était comme des caveaux. « Elle se baissa pour regarder à l'intérieur. » Dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. C'est tellement étrange comme scène. Elle se penche, Jésus n'est plus là, mais il y a deux anges. Et comment Marie a fait pour savoir que c'était des anges? On n'a aucun détail, c'est clair qu'ils ressemblaient à des êtres humains. Mais il y a ces deux anges qui sont là, un assis à la tête, un assis aux pieds où était Jésus, revêtus de blanc, calme, comme s'ils sont en train de veiller à quelque chose. Est-ce que c'est des anges qui avaient été là, qui avaient assisté Jésus lors de la résurrection, qui ont enlevé? Aucune idée, je ne sais pas. On verra ça dans l'éternité, on aura peut-être plus d'informations. Mais la gloire de Dieu est évidente. Ce n'est pas une scène de crime. Regardez, je vais vous donner une comparaison. Si vous êtes familier avec l'évangile de Jean, vous savez que Jésus a déjà ressuscité un de ses amis, Lazare. Ça ne ressemblait pas à la même affaire. Ce n'était pas comme le même genre de scène. Dans Jean 11, 44, on lit « Et le mort, en parlant de Lazare, sortit les pieds et les mains liées des bandes, le visage enveloppé. » Je regarde ça, puis tu sais, c'est comme... C'est quoi la joke? Il n'y avait rien de chic dans cette scène-là. À la limite, c'est quasiment lugubre. C'est juste comme « OK, il est vivant. » Ce n'est pas exactement la même résurrection. Lazare allait mourir à nouveau. Jésus ne mourra plus jamais. Lazare allait mourir de ce corps-là une deuxième fois. Jésus est monté au ciel avec ce corps glorifié. Voyez-vous, c'était glorieux la résurrection de Lazare, mais ça ne parlait pas autant de Lazare que de Jésus. et de sa gloire. Alors que la résurrection de Jésus nous parle de Jésus, de sa gloire. Et il y a deux anges qui sont là, qui président, dans le, qui siègent, qui veillent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais c'est une scène qui est remplie de gloire, qui est remplie de majesté. Ce tombeau vide-là porte un sens incroyable pour le salut de l'humanité, pour l'espoir des hommes. Le tombeau est vide, mais le tombeau est une scène de gloire divine. Puis enfin, la résurrection est réelle. Ce n'est pas simplement que le tombeau est vidé. La résurrection est réelle. On lit au verset 16-17, Jésus lui dit, en parlant à Marie, il lui dit « Marie ». Il lui fait entendre sa voix et son nom. Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas » ou plus littéralement « Ne me retiens pas » car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Littéralement, ce que le texte dit, cette traduction-là ne rend pas tout à fait le texte littéral. Le texte dit « ne me retiens pas », pas vraiment « ne me touche pas ». Puis lorsqu'on va dans Matthieu, on sait que les femmes qui sont allées justement cette journée-là auprès de Jésus se sont littéralement jetées à ses pieds, puis ont pris ses pieds, tellement elles étaient émues, bouleversées de le voir vivant, de voir leur Seigneur vivant. Puis Jésus dit « ne me retiens pas ». J'aime bien comment la sommeur le rend. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Et c'est un des passages qui est un peu difficile à comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit « car je monte vers mon Père » Est-ce que entre le moment où Marie va voir Jésus puis le moment où Jésus va apparaître à ses disciples quelques lignes plus tard, entre ces deux moments-là, il va monter auprès de son Père? C'est une des possibilités, c'est une des explications possibles. Ce n'est pas celle qui me semble le plus réaliste. Je pense que tout ce que Jésus est en train de dire ici, c'est « t'as pas besoin de t'accrocher à moi, je m'en vais pas tout de suite. Je suis encore avec vous pour plusieurs jours. Maintenant, dis à mes disciples, dis à tes frères que je dois les voir bientôt parce que bientôt je vais monter auprès de mon Père. Et donc, je m'en viens vous rencontrer. » Et je pense que Jésus est en train d'annoncer son ascension qui va venir. Mais on n'a pas de certitude sur ça. Ce qui est clair pour moi, c'est que littéralement, Jésus est en train de dire « ne t'accroche pas à moi, ne me retiens pas ». Parce que la résurrection de Jésus est physique, elle est réelle. Une des fausses doctrines qui a circulé à l'époque, dans les années qui ont suivi, c'était l'idée que sa résurrection était seulement spirituelle. Et les apôtres s'appliquent à travers les quatre évangiles à démontrer que sa résurrection est physique, réelle. Il a un corps glorifié. Et ça nous donne l'espoir de notre propre résurrection avec un corps réel à notre tour. Quand il se présente aux disciples, verset 20, « Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en le voyant, en voyant le Seigneur. Il leur montre littéralement ses trous, son côté, et dit, « C'est moi! » Ce n'est pas simplement un corps spirituel, c'est un corps réel, c'est un corps humain. C'est un corps qui va porter pour l'éternité les marques de son sacrifice. Cet agneau-là va être glorifié. Cet agneau qui s'est sacrifié pour nous, Jésus-Christ, va porter la gloire de ses marques dans ses mains, dans son côté. Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Et donc, Jean veut s'appliquer à nous démontrer que la résurrection est réelle, que ce n'est pas simplement quelque chose de spirituel. Marie l'a vu, les disciples l'ont vu. En fait, des centaines de personnes vont le voir. Il va rester pendant plusieurs semaines avant son ascension. La résurrection de Jésus-Christ est de la plus haute importance pour le salut de l'humanité. Voici comment l'apôtre Paul souligne l'importance de la résurrection dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. » Il dit, s'il n'est pas ressuscité, ben nous, on est des faux témoins parce qu'on l'a annoncé, on annonce constamment sa résurrection. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. parce que notre salut est accompli non seulement dans la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés, mais dans sa résurrection où il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a vaincu le péché. Jean nous donne plusieurs informations pour nous montrer que Jésus est vraiment ressuscité et qu'à ses yeux, à lui, aux yeux des premiers témoins, des premiers disciples, ça fait absolument aucun doute. Jean est convaincu sans l'ombre d'un doute que Jésus est vraiment ressuscité physiquement d'entre les morts. Maintenant, une résurrection, ce n'est pas facile à croire. Et il y a bien des gens qui sont sceptiques. Je dirais qu'en Occident, il y a plus de gens maintenant qui sont sceptiques que par le passé. Même très sceptiques, puis je comprends ça. Mais croire dans la résurrection de Jésus est central à ton salut, à ta joie, à ta paix, à la mission que Dieu te donne. Alors parlons de croire juste un instant. Avant de regarder la foi de Jean, comment Jean a cru, juste un mot sur cette idée-là de croire. Croire, avoir la foi, c'est propre à la nature humaine. L'être humain, lorsqu'il cesse de croire en quoi que ce soit, désespère et s'enlève la vie. Nous sommes des êtres qui croient. Pour vivre, on a besoin de croire, ne serait-ce que dans l'avenir, ne serait-ce que de croire que demain va être meilleur qu'aujourd'hui. On s'engage dans des relations, des fois on est déçu, et on veut croire que cette relation-là peut s'améliorer. J'ai besoin de croire qu'il y a un destin. Autrement, on perd l'espoir. Bien, c'est vrai aussi dans le domaine de la foi par rapport à Dieu. Rares sont ceux qui disent ne croire en rien, et même ceux qui disent ne croire en rien, souvent exposent le fait que dans le fond, ils croient. C'est vraiment intéressant, j'ai écouté une entrevue la semaine dernière avec Elon Musk. Il a donné deux entrevues que j'ai écoutées coup sur coup, une avec Babylon Bee, vraiment intéressant, 1h40 avec Elon Musk. Des gens qui croient, qui interrogent Elon Musk sur toutes sortes de sujets, super intéressant. C'est le fondateur de Tesla puis de SpaceX en passant, si vous ne connaissez pas Elon Musk. Puis une autre entrevue avec Lex Fridman, super intéressante. Dans l'entrevue avec Babylon Bee, Elon Musk dit « je crois pas vraiment en Dieu ». J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Jésus, ses enseignements. Il était dans une église lorsqu'il était petit, genre une église anglicane, puis il a fait la catéchèse, puis il a appris plein d'enseignements de Jésus. Il dit super bien ses enseignements, mais je ne crois pas vraiment en Dieu. Dans l'entrevue avec Lex Fridman, il parle de la mission cet automne, au mois de septembre, lorsque Inspiration 4 a décollé avec 4 civils. Puis Lex lui demande, il dit, est-ce que c'était stressant? Est-ce que tu étais inquiet? Il dit, écoute, c'était tellement stressant que j'ai prié. J'ai prié pour la protection de ces gens-là, pour que la mission réussisse. Lui qui ne croit pas vraiment en Dieu a pris le temps de prier, par exemple, lorsque cette mission-là est arrivée. Je comprends que certains d'entre vous vous dites « Ah, moi, je ne suis pas une personne de foi. » Moi, je t'encourage à considérer que tu es plus une personne de foi que tu le crois. C'est plus de déterminer en quoi tu crois, en quoi tu décides de croire. Mais je pense que l'être humain ne fonctionne pas sans croire d'aucune manière. On a besoin de la foi. Et ce qui est beau avec la foi de Jean, c'est qu'il va croire avant de voir Jésus. La semaine prochaine, on va parler de Thomas ensemble. Thomas qui n'a pas cru avant d'avoir vu. Mais il nous est dit explicitement ici au verset 8. « Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. » Il suit Pierre, il n'avait pas osé rentrer. Pierre entre le premier, il suit, il voit le tombeau vide. Et Jean, c'est lui qui est en train de parler de lui-même, il dit « Il vit et il crut. » Et il a cru qu'effectivement, Christ était ressuscité. Il n'y a pas d'autre sens à croire dans l'évangile de Jean. Jean a cru à ce moment-là, même s'il n'y avait pas de référence pour expliquer sa foi. C'était une foi très, très simple. Regardez ce qu'il dit ensuite. « Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. » Jean ne comprenait pas que l'Ancien Testament annonçait la résurrection de Jésus. Il n'avait pas vu ça, mais avec une foi très, très simple, sans comprendre les Écritures, sans avoir tout compris, il nous dit « il vit et il crut ». Et ce n'est pas qu'il croit que le corps a été enlevé, c'est qu'il croit dans la résurrection, parce que dans l'Évangile de Jean, croire, c'est ça. C'est croire sans voir. Et tout de suite après, il va nous donner un contraste avec Thomas. On va le voir ensemble la semaine prochaine. Jean a cru avec une grande simplicité, sans comprendre toutes les Écritures. Lorsque Jean a écrit les lignes qui racontent ça, il a une foi super intelligente, super éclairée. C'est ce Jean-là qui a écrit cet évangile. Et donc, lorsqu'on commence dans Jean 1, il nous parle de Jésus comme le Logos, la parole de Dieu, le principe créateur, celui par qui Dieu a tout créé. Lorsqu'il écrit ces lignes-là, il a compris que Jésus est Dieu le Fils. Lui, plus que tous les autres évangélistes, nous aide à comprendre la divinité de Christ. Donc, lorsque Jean écrit son évangile, il a une foi super éclairée. C'est un théologien extraordinaire. C'est un homme d'expérience. Mais au moment où il a cru, il ne comprenait même pas les Écritures. Il n'avait pas besoin de tout comprendre pour croire en Jésus. Sa foi était simple. Il crut, tout simplement. C'est correct de grandir à travers les années, puis étudier les Écritures, puis approfondir les Écritures, puis comprendre la majesté de la parole de Dieu, la beauté de Dieu, la Sainte Trinité. Mais si à quelque part, à travers toutes les années de ta vie chrétienne, tu perds la joie toute simple des premiers disciples qui voient le tombeau vide, qui voient Jésus, qui vivent cette joie-là, si à quelque part ta foi est rendue tellement intellectuelle, tellement documentée, tellement testée que tu as perdu la simplicité de la joie des premiers croyants, à quelque part tu as perdu l'essentiel. Les premiers disciples sont là, et ils vont voir, et ils vont croire, puis ils vont vivre une joie incroyable, qui est la joie de celui qui croit. Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a la joie de croire en Jésus, simplement. C'est ça un disciple de Christ. C'est quelqu'un qui croit dans sa mort, dans sa résurrection, qu'il est Dieu le Fils, avec une grande simplicité. Tu n'as pas besoin d'étudier la Bible pendant 25 ans pour devenir un disciple de Christ. Tu as juste besoin d'avoir cette joie-là de croire en Jésus. Puis une fois que tu as cru, tu vas te mettre à le suivre. Jean avait une foi très, très simple à ce moment-ci, au moment où il écrit ça. Et vous savez quoi? Jean n'a jamais perdu cette simplicité-là. Quand vous lisez les lettres de Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, on retrouve encore cette simplicité dans sa foi. Une foi indiscutable, il croit en Jésus-Christ. Il est encore en train de le suivre des décennies plus tard, avec une grande simplicité et avec foi. On a vu ensemble la résurrection, on a vu la foi. Maintenant, je termine avec ceci. Je veux qu'on voit la libération qui se produit dans le passage, parce que c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Je ne sais pas si vous êtes familier un peu avec l'expression « un arc narratif ». Un peu technique, là. Un arc narratif, c'est quoi? C'est bien dans une histoire, lorsqu'il y a une tension qui est en train de se créer, pensez au dernier film que vous avez écouté, il y a probablement un arc avec une tension qui est là, il y a un drame qui se passe, et tant qu'on ne se rendra pas à la résolution de cette tension-là, l'arc n'est pas résolu. Le narrateur va te raconter une histoire où il doit y avoir une résolution. Mais ici, il y a un arc narratif qui est là, parce que les disciples étaient partis pour la gloire, ils étaient avec Jésus, sont en train de le suivre. C'est génial, on rentre à Jérusalem. Boum, il se fait arrêter, il se fait crucifier, il meurt. On est dans une tension. Il y a une tension qui est produite, qui est insupportable, qui conduit les disciples au désespoir. Je veux dire, Marie va là et elle pleure. Ils pleurent leur Seigneur. Je veux dire, tout s'est effondré. Tous leurs espoirs sont tombés. Celui qui était plus qu'un prophète, celui qui parlait mieux que tous les prophètes, celui qui faisait des miracles, celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs, celui en qui ils avaient reconnu le Messie, le Sauveur des Juifs, est mort. On est dans une tension. Il y a quelque chose qui doit se résoudre ici. Mais lorsqu'ils vont voir le Christ ressuscité, il y a une résolution dans cet arc-là. On est libéré. On est libéré de cette tristesse. Les disciples sont libérés de cette tristesse, de ce désespoir d'avoir perdu leur Sauveur. Et c'est vraiment raconté comme une libération. Ils sont là, ils sont dans l'incertitude, dans l'inconnu, dans le désespoir, puis Jésus va leur apparaître, puis il y a même comme une espèce de suspense qui est là. Jésus apparaît à Marie, Marie ne le reconnaît même pas. Finalement, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va l'appeler par son nom. Puis Jésus s'était présenté comme le berger qui appelle ses brebis par leur nom. Puis lorsqu'ils entendent sa voix, ils répondent. J'aurais tellement aimé ça être là. Puis juste observer la scène, puis voir Jésus qui est là, puis dire, OK, il est là, mais Marie ne l'a même pas reconnu. Puis là, Jésus va dire, Marie, là, elle reconnaît sa voix, comme une brebis qui entend la voix du berger. Et là, son cœur se remplit de joie. Elle est libérée de tout ce désespoir-là. Cette libération-là que Dieu nous donne vient lorsqu'on croit dans la résurrection de Jésus-Christ. Et si tu es à cet endroit dans ta vie où tu dis, Jésus, j'aime ses paroles. Oh, j'aimerais tellement ça m'asseoir avec Elon Musk. Puis tu dis, OK, ses paroles, mais ses paroles, c'est rien. Ses paroles, c'est juste des indices. C'est juste des guides pour te révéler une personne. Regarde au-delà de ses paroles. Regarde qui il est. Si tu es à cet endroit-là où tu as appris à apprécier Jésus, tu le trouves intéressant, mais tu es là et tu te dis, ouais, mais la résurrection, là, c'est comme, pff, c'est dur à croire. Tu es dans cette tension-là, dans cet arc de ta foi. Et si Dieu, quand Dieu va t'accorder la grâce de croire, d'entendre la voix de Jésus, qui va dire, Yannick, Michel, Esther, Marie, puis là, tu vas répondre. La libération qui va venir dans ton âme. Et c'est ça qu'on voit ici. Ils entrent dans une joie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer parce qu'ils n'étaient même pas capables d'imaginer la résurrection de Jésus. Ils entrent dans une paix, Jésus va leur donner une paix qu'ils n'auraient pas pu concevoir avant. Regardez la joie de Marie qui se tourne vers Jésus, qui dit « Rabouni, maître ». Et Jésus lui dit, ne t'accroche pas à moi, je ne suis pas parti encore, tu vas me revoir, c'est bon, on va se revoir. La joie des disciples, au verset 20. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et peut-être pour essayer de s'associer, de s'identifier avec la joie qu'il y a là, parce que je veux dire, moi, je n'ai pas vu Jésus ressuscité. Pensez à une maman qui porte un enfant dans son ventre et qui arrive au moment de l'accouchement, puis après avoir porté cet enfant-là pendant 9 mois, après avoir travaillé tellement fort pour le mettre au monde, on vient lui remettre son enfant dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle voit son enfant, lorsqu'elle le voit? De manière plus simple, peut-être plus banale, tu as un proche que tu aimes énormément qui est parti en voyage pendant longtemps, puis tu t'en vas l'accueillir à l'aéroport. Puis là, tu attends, puis il y a toute la foule, puis à un moment donné, boum, tu le vois. C'est quoi qui se passe? Imaginez les disciples qui ne voient pas un nouvel enfant qui vient au monde, qui ne voient pas quelqu'un qui revient d'un voyage, mais qui voient Jésus-Christ ressuscité. Imaginez la joie qui les porte. Ce n'est pas simplement une nouvelle vie humaine, c'est une nouvelle vie éternelle que Christ vient leur offrir. Et ils sont remplis de cette joie-là. Et quelque part, c'est dans l'expérience de ta foi, si avec les périodes qu'on est en train de vivre, tu as perdu la joie, mais tu as perdu la joie de saisir l'importance de la résurrection de Jésus, la réalité de la résurrection de Jésus. Et Dieu veut te donner cette joie-là incomparable de savoir qu'il est ressuscité d'entre les morts. Puis Jésus leur donne la paix. Au verset 19, il dit, « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. » Et là, Jésus va apparaître au milieu d'eux. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. J'ai tellement hâte d'avoir ce corps-là, moi. Et leur dit, « La paix soit avec vous. » Shalom, la paix soit avec vous. Il va le répéter après. Au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Écoutez, Jésus qui est dans le tombeau, c'est son sacrifice. Mais Jésus qui ne ressuscite pas, c'est notre désespoir. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Andrew Murray. Beaucoup de ses livres sont traduits en français. J'aime cette citation. Je vais la lire en anglais puis en français. a dead Christ for whom I must do everything, a living Christ does everything for me. Un Christ mort est un Christ pour lequel je dois tout faire. Parce qu'il m'a montré comment vivre, mais il est mort et il n'est plus là. Et je vais l'honorer, mais je vais honorer un mort. Mais un Christ vivant fait tout pour moi. Parce que lui a vaincu la mort. Parce que Jésus leur dit, « Shalom, que la paix soit avec vous. » Ils entrent dans une paix où il y a une résolution. Ils sont libérés parce que Christ a vaincu la mort, a vaincu le péché, a vaincu le monde, a vaincu le diable. Jésus est vivant. Il était glorieux, il est maintenant absolument majestueux et glorieux, et il est l'espoir de toutes nos résurrections, de ma résurrection et la tienne, si tu crois. Et donc, ce que Jésus donne dans cette libération-là, dans cette résolution-là, il leur donne la joie et il leur donne la paix, une paix qui ne va plus jamais les quitter. Puis on va le voir, si vous allez lire le livre des Actes, vous allez voir des disciples qui sont transformés. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le passage ici. Jésus va comme souffler sur eux, littéralement, là, il va souffler sur eux puis il va dire « Recevez mon esprit ». Ma compréhension, c'est que c'est symbolique ce qui est en train de se passer là, puis ça annonce ce qui va se passer au moment de la Pentecôte. Parce que ces disciples-là ne sont pas encore tout à fait transformés comme lorsqu'ils vont vraiment recevoir l'Esprit. Et donc, Jean, je pense, est en train d'annoncer, Jésus est en train d'annoncer, « Après mon ascension, vous allez recevoir mon Esprit. » Et ces gens-là vont être complètement transformés. Ils vont bouleverser l'Empire romain. Ils vont bouleverser la terre entière. Mais non seulement il leur donne une joie, il leur donne une paix, mais il leur donne une mission. Il donne une mission à leur vie, un sens à leur vie. Regardez le verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Tout à l'heure, je disais, un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a la joie d'avoir cru en Jésus. Maintenant, une fois que tu as cette joie-là, mais tu t'appliques à le suivre, à marcher dans ses voies. Voyez-vous ce qu'il dit? Il dit, « Comme le Père m'a envoyé, maintenant vous allez pouvoir y aller. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, vous allez recevoir mon esprit. Le Père m'avait envoyé pour annoncer un message d'espoir aux hommes. Maintenant, vous allez vous appliquer à marcher dans mes traces. C'est moi qui vous envoie maintenant. Vous allez me suivre. » Et Jésus vient de donner le sens de leur vie, une mission pour leur vie. Il dit, « Ceux à qui vous allez pardonner les péchés, leurs péchés seront pardonnés. » Je ne sais pas si vous avez vu le vieux film « La liste de Schindler ». Dans la liste de Schindler, il y a une scène vraiment pathétique où celui qui est le directeur du camp de concentration a vu comme un prêtre qui prononce un pardon, tu sais. Puis là, il décide, lui, qu'il veut se pratiquer à pardonner. C'est tellement pathétique comme scène. C'est une espèce de psychopathe, le bonhomme. Puis là, il est devant son miroir, puis là, il se pratique. « Je te pardonne. » Il cherche la posture, tu sais. « Je te pardonne. Je te pardonne. » C'est pas vraiment ça que Jésus est en train de nous dire, d'accord? Il nous a pas donné le pouvoir de se promener dans la rue puis de dire « Je te pardonne. » Toi, non. Toi, oui. C'est pas ça du tout. Il nous envoie pour annoncer l'Évangile. Et lorsque j'annonce l'Évangile de Jésus-Christ, celui qui reçoit l'Évangile, ses péchés sont pardonnés. Et celui qui rejette Jésus-Christ, bien Jésus va aller jusqu'à dire qu'une malédiction repose sur cette maison s'il vous rejette. Et donc, Jésus nous donne une mission. C'est celle d'annoncer l'Évangile, d'annoncer cette libération aux captifs. Et à ceux qui vont croire comme les disciples ont cru, vous allez voir dans les deux prochaines semaines, c'est vraiment là qu'on s'en va avec la fin de l'Évangile de Jean. Ceux qui vont croire vont entrer dans la libération de la foi, vont entrer dans la joie, vont entrer dans la paix et vont avoir un sens à leur vie, une mission. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Écoutez, on vit une drôle d'année. L'année commence, puis j'aurais le goût des fois d'être comme un ours qui s'en va se camper pour l'hiver, puis je vais aller hiverner. Vous me réveillerez l'année prochaine. Mais Dieu nous a placés ici, en ce moment, avec un sens qu'il a donné à nos vies, par sa mort, oui, mais par sa résurrection. Et les premiers disciples ne s'attendaient même pas à le voir ressusciter. Ils ne croyaient pas à ça. Ils n'avaient aucune idée que ça allait se produire. Mais à leurs yeux, à eux, c'est absolument clair qu'il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. Le tombeau n'est même pas une scène de crime. C'est une scène divine où il y a des anges qui sont là, qui président à la résurrection de Jésus-Christ. Jésus leur apparaît physiquement. Et au moment où ils croient, ils sont libérés. Ils sont libérés de la tristesse, du désespoir, de savoir qu'un être magnifique qui enseigne des choses qu'aucun autre homme enseignait avant, des paroles de sagesse glorieuse, des paroles de paix, des paroles de charité pour ton prochain, des paroles d'amour pour Dieu, de respect pour Dieu, mais ce n'est pas simplement quelqu'un qui a enseigné des paroles. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est mort sur une croix. C'est un être merveilleux qui est ressuscité d'entre les morts. Et quand tu as cette foi-là, garde-la avec une grande simplicité. La simplicité de Jean qui a cru. Jean qui a cru, de Marie. C'est tellement beau de voir que Dieu envoie Marie. À l'époque, le témoignage de cette femme n'aurait pas porté parce qu'il n'y avait pas le même poids légal. Mais Jésus est en train de dire, « Regarde, c'est pour tout le monde. Mon premier témoin, ça va être Marie. C'est elle qui va me voir ressuscité d'entre les morts. C'est elle qui va en témoigner. » Et Dieu te donne ensuite une mission. Et regardez le contraste. Marie, la première fois, elle arrive, le tombeau est vide. Désespoir, on a volé le corps. Elle va le dire aux disciples en pleurant. Ils ont volé le corps. Ils ont pris le corps de notre Seigneur. Lorsqu'elle voit le maître et qu'elle entend sa voix, qu'il appelle Marie, elle voit qu'il est ressuscité. Elle court vers les disciples et elle dit, « Il est ressuscité. » Et je vois dans Marie la passion de la mission. Jésus va apparaître ensuite à tous les disciples et il va dire, « Comme moi j'ai été envoyé, vous devez aller maintenant. » Mais allez-y avec la joie de Marie, avec cette simplicité où tout n'est pas clair. Mais les gens autour de nous ont besoin d'entendre qu'il est possible d'être réconcilié avec Dieu, que le monde où on vit n'est pas désespéré, que l'avenir de l'humanité n'est pas désespérant, parce que l'avenir de l'humanité ne s'arrête pas sur cette terre et ne s'arrête pas à ta mort. L'avenir de l'humanité est en Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui mon avenir, c'est lui ton avenir. Si tu crois, et si à quelque part tu es en train de cheminer, puis tu es là, puis tu dis, j'aimerais ça croire, bien lis les évangiles, prends le temps de les lire, reste avec nous dans les prochaines semaines. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi cette simplicité de croire, afin que moi aussi je puisse avoir la joie, vivre la paix, et trouver un sens profond à ma vie, qui est celui d'annoncer Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide, et ce n'est pas qu'on a volé ton corps, c'est que personne n'aurait pu te retenir dans la mort. Ce n'est pas, Seigneur, que tu as manqué ton coup. Ce n'est pas une manigance que les premiers disciples ont dû faire. Non, ces gens-là vont être transformés en te voyant, vont être transformés en recevant ton esprit, vont transformer littéralement l'Empire romain, vont bouleverser la terre. Et depuis des milliers d'années, des chrétiens qui portent cette joie, cette foi, cette paix, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient les circonstances de ma société, qu'on soit en pandémie ou non, Seigneur, les chrétiens, depuis des milliers d'années, remplis de cette joie de la résurrection, de cette paix que vient avec ta victoire, qui vient avec ta victoire, et animés de cette mission d'aller vers les hommes et d'annoncer le pardon qu'il y a en Jésus-Christ, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie de nous remplir de cette joie comme Église, que l'Église de l'espoir, Seigneur, porte son nom à juste titre. Parce que notre espoir est vivant, parce que Jésus-Christ est vivant, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, s'il y a des gens qui écoutent ce message et qui n'ont pas encore cette foi-là, viens parler à leur cœur, fais-leur entendre ta voix, Seigneur, qu'ils sentent dans leur âme, dans leur cœur, cet appel très personnel à se tourner vers toi, Jésus, et à dire, Rabouni, Maître, et à t'adorer, Seigneur, à te célébrer, pour entrer dans la joie, dans la paix. et dans la mission de Jésus-Christ. Amen. Amen.